Le rôle inhibiteur du management. À quoi sert le management? Dans une version un peu passéiste, paternaliste, il est considéré qu'il serait nécessaire de manager les subordonnés parce qu'ils ne seraient pas capables de se réguler, de s'organiser tout seuls. Cette vision rejoint pro ou prou celle du maître et de l'élève ou du père et de l'enfant. L'un sait, l'autre ne sait pas, donc doit se soumettre à celui qui sait. Cette version est vraie dans un contexte d'esclavage, mais plus sûr alors que le terme de management soit encore approprié. Cette interrogation sur l'émancipation et l'autonomie des employés vis-à-vis du management s'ouvre d'ailleurs dans le débat sur l'entreprise libérée et autres réflexions sur l'utilité réelle du management. Un groupe autogéré, il est vrai, peut s'avérer plus performant qu'un groupe contraint, non seulement sur la qualité de vie au travail, mais aussi sur la productivité. Les quelques exemples éculés d'organisations de ce type restent cependant rares, pour ne pas dire exceptionnels. Et les mouvements autogérés, même hors de l'entreprise, ne durent rarement tels quels très longtemps et tournent souvent à l'anarchie la plus complète avant de se dissiper, de se disperser ou bien de tourner franchement à la dictature peu enviable. Comment alors manager des collaborateurs sans tomber dans le laxisme ni dans le dirigisme le plus rigide? Je pense qu'une manière de poser le problème est de se demander ce qu'on attend du management, à quoi nous voudrions qu'il serve. Selon le rasoir d'Occam, il est inutile de multiplier les entités inutiles, donc si le management ne sert à rien, nous ne le garderons pas. Maintenant, posons les données du problème. Nous voulons atteindre un objectif que nous nous sommes posés et que nous ne pouvons atteindre seuls. Sinon, la question de la gestion des interactions avec les autres ne se poserait pas et nous n'avons qu'à nous organiser nous-mêmes. Nous avons donc besoin des autres pour nous aider à atteindre cet objectif. Et plus le projet est complexe et compliqué, plus nous avons besoin de monde et ou de compétences, si bien que gérer ces coopérations en direct devient difficile. Cet effet d'échelle engendre deux conséquences. La première est la dynamique de production et d'innovation. À plusieurs, on est plus fort, plus créatif, plus performant que tout seul. Et la seconde est l'anarchie possible des interactions qui suppose une organisation. En clair, nous avons besoin des autres et de leur force de création de valeur pour pouvoir atteindre un objectif avec le risque que tout ce beau monde soit ingérable. Pour garder les bénéfices de la coopération et minimiser les risques de débordement, il faut donc organiser cette assemblée sans toutefois trop la brider pour ne pas perdre cette effervescence créative. L'enjeu est de trouver un équilibre intelligent entre favoriser l'effervescence et la canaliser. La diriger vers l'objectif visé. C'est là qu'intervient le management, dans cette canalisation de la force de chacun vers un objectif commun partagé. La force de l'assemblée des collaborateurs vient du fait qu'ils ont les mains dans le cambouis et la tête dans le guidon. En réalisant leurs tâches et leurs missions de manière concrète et tangible, les collaborateurs perdent nécessairement la vue générale et globale de l'ensemble et ne savent plus très bien pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est le sens qu'il est bon de leur rappeler de temps en temps, mais surtout ils ne peuvent pas voir, s'assurer que ce qu'ils font, même du mieux possible avec la meilleure volonté du monde, est toujours aligné dans la perspective de l'objectif commun. Le management, en gardant du recul, peut coordonner toutes ces productions pour s'assurer qu'elles contribuent bien au même objectif. Cette canalisation joue le rôle d'inhibiteur, elle limite et contraint volontairement les différentes contributions de chacun pour ne garder, favoriser et optimiser que les plus performantes, les plus pertinentes pour atteindre l'objectif commun partagé. Si cette contrainte est trop restrictive, elle va finir par décourager et castrer les motivations individuelles à contribuer à l'objectif commun, comme on étouffe des braises qui finissent par s'éteindre. Le bénéfice de la coopération disparaît et l'objectif ne sera jamais atteint. Si la contrainte est trop lâche, les contributions risquent de partir dans tous les sens et de se perdre sans réaliser aucun objectif commun, et en définitive, des ressources seront gaspillées, ce qui n'est pas optimal, voire pire, les contributeurs peuvent imaginer poursuivre des objectifs qui en fait ne servent pas, voire contredisent tout à fait l'objectif commun. Et lorsque cela devient explicite, fait exploser la coopération même. Dans ces deux cas, nous ne pouvons pas parler d'équipe, puisque aucun objectif commun n'est réellement poursuivi. En conclusion, le management est donc un équilibre subtil qui favorise la mutualisation des forces créatives de chacun en les dirigeant, en les contraignant, comme on canalise la force d'un torrent, vers un objectif commun. Cet équilibre suppose une communication incessante des collaborateurs vers le manager et inversement du manager vers les collaborateurs. Les flux sont plus nombreux du bas vers le haut puisqu'ils émanent d'un plus grand nombre vers un plus petit, mais ils sont plus importants au sens de plus déterminants du haut vers le bas dans la mesure où ils amplifient une synthèse qui aboutit vers une décision et donc des conséquences plus fortes. Le management n'est utile que dans la mesure où il permet d'optimiser, de maximiser, de pondérer la force créative et de production des collaborateurs. Il doit par conséquent favoriser cette puissance en lui donnant ses conditions de possibilité, tout en la canalisant pour la diriger, pour réaliser un objectif qu'individuellement personne ne pourrait atteindre, le fameux objectif commun partagé. C'est en ce sens que le management joue un rôle d'inhibiteur, plutôt, peut-être pourrions-nous dire, un rôle d'exhausteur du capital humain.